rencontre avec nos évêques.
Chers amis, bonjour. Nous voilà à nouveau en contact avec le diocèse de Pamiers, Cousins et Mirepoix, à travers son évêque. Je voudrais aujourd'hui vous partager quelques réflexions, sans prétention, mais quand même d'ordre philosophique. Nous avons déposé sur le site internet de notre diocèse quelques réflexions autour de ce que pourrait être le jour d'après, sous-entendu, ce jour ou ce temps dans lequel nous allons entrer après la période du confinement et ce qu'elle aura engagé chez nous individuellement et collectivement. Vous pourrez trouver, par exemple, si vous avez le temps d'aller sur le site, une réflexion autour de ce que cela peut pouvoir signifier que de cacher notre visage, en espérant que cela ne dure pas trop longtemps, tant la relation au visage est essentielle à notre relation les uns avec les autres, tant elle est riche et tant elle ne peut pas être mise de côté. Donc nous nous appuyons là sur des textes d'Emmanuel, de ce philosophe juif Emmanuel Levinas, qui a particulièrement approfondi cette question de la relation au visage. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt m'arrêter sur deux autres philosophes, Edgar Morin, qui essaie de révéler ce que cette crise peut manifester en 7 points, d'une manière un peu austère, mais en même temps assez vraie et réaliste. Et puis une femme philosophe, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, qui nous dira à travers un exercice littéraire, à travers une lettre, qu'elle s'adresse à elle-même en prenant du recul de 5 années, qu'elle s'adresse à elle-même au-delà de l'espace et du temps pour décrire un peu ce que sera devenu ce monde dans 5 ans, au moins ce qu'elle espère. Alors Edgar Morin, d'abord, il nous parle de 7 points. 7 points que révèle cette crise. Premier point, en tant que crise planétaire, cette crise met en relief la communauté de destin de tous les humains en lien inséparable avec le destin bioécologique de la planète. Elle met simultanément en intensité la crise de l'humanité qui n'arrive pas à se constituer en humanité. Deuxième point, en tant que crise économique, elle secoue tous les dogmes gouvernant l'économie, elle menace de s'aggraver en chaos et pénurie dans notre avenir. Troisième point, en tant que crise nationale, elle révèle les carences d'une politique ayant favorisé le capital au détriment du travail et sacrifié prévention et précaution pour accroître la rentabilité et la compétitivité. Quatrième point, en tant que crise sociale, elle met en lumière crue les inégalités entre ceux qui vivent dans de petits logements peuplés d'enfants et parents et ceux qui ont pu fuir vers leur résidence secondaire pour se mettre au vert. Cinquième point, en tant que crise de civilisation, elle nous pousse à percevoir les carences en solidarité et l'intoxication consumériste qu'a développée notre civilisation jusqu'à aujourd'hui. Et cette crise nous demande de réfléchir pour une autre politique de civilisation. Sixième point, en tant que crise intellectuelle, elle devrait nous révéler l'énorme trou noir dans notre intelligence qui nous rend invisibles les évidentes complexités du réel. Et enfin, un septième point, celui qui peut-être nous rejoint le plus personnellement, le plus individuellement, en tant que crise existentielle, elle nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins, nos vraies aspirations masquées dans les aliénations de la vie quotidienne, faire la différence entre le divertissement pascalien qui nous détourne de nos vérités et le bonheur que nous trouvons à la lecture, l'écoute ou la vision des chefs-d'œuvre qui nous font regarder en face notre destin humain. Et surtout, cette crise existentielle devrait ouvrir nos esprits, depuis longtemps confinés sur l'immédiat, le secondaire et le frivole, sur l'essentiel, l'amour et l'amitié pour notre épanouissement individuel, la communauté et la solidarité de nos « je », entre guillemets, dans des « nous ». Le destin de l'humanité, dont chacun de nous est une particule. En somme, conclut-il, le confinement physique devrait favoriser le déconfinement des esprits. Voilà qu'il finit sur une touche positive. Ce confinement physique que nous avons vécu devrait favoriser un déconfinement des esprits. Alors, Cynthia Fleury, dans cette lettre qu'elle s'adresse à elle-même, à celle qu'elle sera dans 5 ans, elle dépeint un portrait optimiste du monde de demain. Écoutons-la un instant. Très cher, je t'écris cette lettre d'un temps futur, proche et lointain. Il s'est passé 5 ans depuis le confinement. Je t'écris pour te rassurer sur la suite. Elle va être splendide, parfois âpre. Je ne vais pas te mentir, mais sincèrement, elle vaut la peine d'être vécue. Je n'ai nulle envie de dévoiler trop tôt la chose, cela gâcherait ton plaisir, tu verras par toi-même. Il va y avoir pas mal de rebondissements, des choses que tu n'imaginais nullement. C'est si rare d'être réellement surpris. Allez, tout de même te dire, car je sais ton angoisse socio-économique, que la société va se relever plus forte et solidaire, que le travail va se réinventer. Les gens ont quand même pas mal aimé être chez eux. Dis-leur qu'ils vont pouvoir éviter le flex-office, ou alors que la définition du flex-office va être si extensive qu'elle va inclure aussi la maison. Dis-leur aussi qu'il y a pas mal de nouveaux métiers qui ont plus la cote, alors qu'ils étaient très dévalorisés. Dis-leur que la métropolisation délirante des dernières années a subi un petit revers bien sympathique. Visiblement, les gens avaient envie de respirer, de ne pas se sentir piégés. Ce pas de côté dans les territoires donne un nouveau style à nos vies. Dis à tous ceux qui se sentent saturés qu'ils pourront revendiquer le droit d'avoir du temps. Je vois ton air sceptique. Tu te demandes si le décompte des morts s'est poursuivi, s'il a été dévastateur. La mort est une chose naturelle, banale et terrible, que te dire? La mort existe, mais elle n'a pas été inacceptable. Elle aussi a fini par trouver sa place, la plus minime possible. Nos enfants vont bien, très bien même. Ils ont récupéré une joie de vivre intacte. Ils se racontent leur fierté d'avoir traversé cet inédit. Ils ont terrassé un virus, c'est pas mal comme départ dans la vie commune. Et toi? Tu vas bien, je vais bien. Je n'ai pas vraiment changé de vie, mais j'ai fait le ménage. Tu sais, celui auquel tu pensais depuis pas mal de temps. Écoute, c'est fait, tu n'auras plus à t'ennuyer avec ça. Te souviens-tu, tu voulais de la rupture, du deuil, un levier pour te déployer. J'ai pris des décisions. Cela n'a pas été simple, surtout au début, car j'étais fébrile, trop prudent, avec l'art du changement, et puis, je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai décidé, tout ce que tu ruminais depuis longtemps, voilà, c'est derrière. Je vogue désormais, sans me demander si le monde s'effondre, la légèreté après la pesanteur. Voilà quelques nouvelles de ton futur. Je sais que je ne t'ai pas révélé grand-chose, mais je voulais déjà te dire ce que tu as toutes les raisons de tenir, d'avancer, que tu as toutes les raisons de tenir, d'avancer, de garder courage. Sois vigilant, bien sûr, mais ne te laisse pas bouffer par l'angoisse. Les solutions arrivent, tu vas voir. Je ne dis rien. Allez, juste un indice. Qu'est-ce que tu vas rire? Enfin, je crois, moi en tout cas, j'ai ri. Quand tu vas voir la tête de la solution. Et toi, qui n'es pas encore moi, je te serre fort. Cynthia Fleury. Voilà, chers amis, ces paroles un peu percutantes, un peu originales, qui peut-être sont susceptibles de nous aider à réfléchir au jour d'après. Il y aura sans doute un jour d'après pour notre manière de vivre en Église. Vous savez que la philosophie est servante de la théologie et que le théologien a besoin d'utiliser aussi sa raison. Alors nous aurons à inventer un nouveau vivre, un nouvel art de vivre en Église, et nous le croyons parce que c'est l'esprit de la Pentecôte qui nous soufflera de nouveaux chemins. Nous le croyons, ce sera un art de vivre très heureux et très joyeux. Bonne journée à vous tous et à vous toutes.
Rencontre avec nos évêques.